Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Le grand public l'a découvert dans une émission culte de la télévision des années 2000, la Star Academy sur TF1. Elle y enseignait le yoga aux élèves des promotions 5 et 6 sous la direction de la productrice Alexia Laroche-Joubert. Le yoga, c'est la grande passion d'Aria Crescendo et le coach qu'elle est devenue l'a partagé avec les stars d'Hollywood et d'ailleurs comme Jared Leto, Chaim, Natasha Saint-Pierre ou Ashton Kutcher. Mais elle est aussi musicienne, chanteuse, danseuse. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous présenter son nouvel album Love is the Answer. Il est disponible chez Mendo Music et vous m'en dire des nouvelles.
Bonjour.
Love is the answer, l'amour est la réponse, mais la réponse à quoi ?
La réponse à tout.
À tout.
Oui, c'est pour ça que je dis voilà, love is the answer, parce que la réponse pour moi, elle est vraiment à tout.
Donc au soubresaut du monde, aux problèmes de la vie quotidienne, aux problèmes personnels.
Bah oui, si tout le monde répondait avec de l'amour à tous nos problèmes, au final, il y aurait moins de problèmes. Si vous êtes vraiment avec votre cœur à 100% dans le moment présent, dans tout ce que vous faites, que ça soit avec votre famille, vos amis, au travail, on est quand même mieux que d'arriver en négatif et voir le côté dark des choses, alors qu'en fait, tout pourrait être amour. C'est un peu le concept Peace and Love.
Oui, donc le yoga et l'amour, c'est un petit peu la même chose pour vous, si je vous comprends bien.
Oui, mais vous savez aussi, l'amour, ça peut... D'ailleurs, dans cette chanson qu'on vient d'entendre, je dis « Love is the answer, love, love ». Après, je dis « Music is the answer, yoga is the answer ». En fait, le « love » peut être remplacé par ce que vous voulez qui vous passionne dans votre vie ou que vous pensez que c'est la réponse à ce que vous à vos attentes.
Oui, en fait, au fond, cet album, c'est quoi ? C'est une sorte d'élixir musical, optimiste et corporel.
Voilà, c'est ça. Donc, les mantras, à la base, c'est déjà des techniques de méditation. Donc, pour les gens qui ne savent pas comment commencer la méditation, en fait, c'est par des techniques de mantras. Donc, quand vous répétez une phrase ou une longue phrase dans votre tête pendant une demi-heure, une heure, enfin, ça dépend de combien de temps vous avez pour méditer, ça enlève les pensées polluantes. Donc, à la base, les mantras sont faits pour ça. Vous répétez une phrase, alors vous avez un mantra pour la paix dans le monde, un mantra pour détruire les obstacles, un mantra pour la santé. Enfin, chaque mantra apporte quelque chose de très particulier au corps. Donc, du coup, là, dans cet album, je voulais vraiment que les gens, vous en avez 6 qui sont très dynamiques, très fun, modernisés, quoi, parce que souvent on entend sur YouTube les mantras, c'est des petits indiens avec des petits accordéons oui. Ou des harmoniums. Et c'est vrai que ça parle pas à tout le monde. Donc, je me suis dit, ça serait sympa de faire un album pop de mantras qui parle un peu aussi à la nouvelle génération ou des gens qui n'ont pas forcément envie de s'enfermer dans un truc très yogi et très traditionnel.
Quoi. Mais avec des mots en sanskrit, c'est important ?
Voilà, c'est ça. Alors, les mantras restent en sanskrit.
Oui, bon, il y a quelques déviations vers l'anglais quand
non,
même.
Non, en fait, le refrain est en sanskrit.
Voilà, ça c'est important.
Voilà. Par contre, les couplets, effectivement, sont en anglais. Parce que je voulais en fait faire un projet un peu international. Donc, dans les couplets, c'est de l'anglais qui explique un petit peu ce que le refrain veut dire. Donc, du coup, je mets... Enfin, c'est un petit peu des vibes positives, mais qui sont comprises par tout le monde. Donc même ceux qui connaissent pas le yoga, ils peuvent très bien écouter ça en mode lounge ou en vacances dans leur voiture avec la capotable, décapotable.
Alors, comment est-ce qu'on passe du crazy horse au yoga? Parce que ça fait un peu grand écart quand même.
Bah, pas vraiment, hein, parce que quand vous travaillez en tant que danseuse au crazy horse et vous vous occupez de votre corps, et puis je veux dire, c'est vraiment draconien, vous êtes pesé toutes les semaines et tout ça, donc il faut faire très attention à s'aligner à son corps. On ne rigole pas au crazy horse. Donc, c'est pareil dans le yoga, on fait très attention, il y a une discipline. Le yoga, c'est pas une fois par semaine, on va devenir un grand yogi, hein, c'est tous les jours. Il faut prendre soin. En fait, c'est une discipline qui dit on doit prendre soin de soi tous les jours. Que ça soit par la méditation, par les asanas, donc les asanas, c'est les postures corporelles, par en écoutant de la musique yogi ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, tous les jours, il faut se faire du bien à la tête, au corps ou au mental. Donc moi, en fait, c'était un lien direct avec le crazy horse parce que j'étais pas très bien quand j'ai commencé le crazy. J'avais 17 ans. Alors, je suis pas restée 17 ans au crazy horse, mais j'ai commencé à 17 ans. Mais en fait, bon, j'étais très, très jeune. On partait souvent en tournée. On était invités partout. Il y avait de la drogue, de l'alcool à on voulait, enfin, sur les tables, dans les soirées et tout ça.
Oui,
et
c'est là, vrai on est très très loin de
très très
de
loin du
zen que vous décrivez.
Exactement. Donc du coup, en fait, étant dans le milieu artistique où il y a toutes ces tentations et puis surtout le milieu qui est très très difficile parce que voilà, j'étais au Crazy Horse, c'était invité un peu partout. Après, j'étais dans un groupe de musique, j'étais à la radio. T'avais grave des fans, tout le monde t'appelait pour t'inviter dans toutes les soirées. Le lendemain, t'as plus personne, on te connaît plus, t'as plus d'amis parce que tu passes plus en radio. Enfin, le milieu artistique, vous le savez, c'est pas du tout facile. Hein. Un jour, c'est un roller coaster. Un jour vous êtes en haut, un jour vous êtes en bas, ça va de, c'est jamais facile. Donc en fait, moi, si j'avais pas le yoga qui est vraiment le fil conducteur de ma vie, bah j'aurais été droguée, alcoolique, dépressive, en rehab, un peu comme toutes les stars hollywoodiennes, hein, parce que les gens voient que les paillettes et le côté extraordinaire des artistes, mais ils savent pas qu'en fait derrière il y a beaucoup de pression, hein, que ça soit des labels, le crazy horse, une discipline de fou, t'as dans les contrats, enfin c'est pas tout le monde a le mental pour en fait se développer dans le milieu artistique.
Alors expliquez-nous, il y a quelques mots peut-être sur ce mantra-là. C'est quel mantra déjà ?
Om Asato Kamaya.
Oui.
Alors c'est vraiment le mantra sur lequel c'est l'entrée de l'album, c'est le mantra de l'immortalité. Alors ils disent que si tu le répètes over and over and over and over, en fait tu deviens immortel. Donc vraiment c'est mon préféré celui-là.
Bon, je vais m'y mettre alors.
Ouais, faut commencer à le répéter. Et en fait ce qui est bien c'est que quand tu commences un cours de yoga, t'as les salutations du soleil, donc t'as la préparation, c'est l'échauffement du cours de yoga, la préparation du corps aux postures. Donc c'est un petit peu un truc un peu guerrier, un peu on va de l'avant, il y a rien qui nous arrête. Donc du coup c'est pour ça que je voulais commencer l'album avec ce cri de guerre entre guillemets.
Parce que vous l'avez conçu cet album comme un cours de yoga ?
Comme un cours de yoga. En fait, c'est un album qui dure une heure. Donc, vous avez six chansons qui sont très dynamiques, très upbeat sur les postures debout, l'échauffement. Après, la deuxième partie, c'est des six chansons qui sont beaucoup plus lounge, beaucoup plus Bouddha Bar zen. Et du coup, c'est plus vers les postures assises, la relaxation, la méditation à la fin.
Voilà, et dans le cadre de votre cours à Boulogne, hein, près de Paris, on a évidemment tous ces éléments-là. Notre reporter Amélie Beaucourt est allée assister à un de vos cours, alors pas à Boulogne, hein, quoi que vous avez donné à quelques journalistes et quelques privilégiés il y a quelques jours. C'était mardi dernier au spa du Fouquet's à Paris, au sous-sol, hein, quelques jours après le saccage de la salle du restaurant pendant la manifestation des gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Et à ce moment-là, dans le spa, l'ambiance était un petit peu plus zen que le samedi précédent. Un reportage.
L'endroit est somptueux, lumière tamisée, piscine éclairée de l'intérieur par des spots bleus et verts. L'air est moite comme celui d'un sauna chauffé à 32 degrés. Une odeur de musc et de monoï flotte dans la pièce. On se croirait au bord d'un lagon en Asie. Quelques amateurs de yoga en tenue de sport sont à genoux sur des tapis en mousse. Au premier rang, Alexandra Rosenfeld, qui portait l'écharpe de Miss France en 2006, écoute attentivement les consignes d'Aria. C'est elle, la prof, aujourd'hui.
Faites bien attention à vos mains. De plus souvent, on se fait mal au poignet dans le yoga, parce qu'on ne fait pas attention, on ne met pas de l'énergie dans les doigts. Donc, si vous laissez les mains complètement mortes, sous le côté, la paume de la main, elle doit être immergée vers le sol et agripper, mettez l'énergie, sinon vous risquez de faire mal au poignet.
Avec ses cheveux blonds platine et sa couronne de fleurs, elle a un peu l'air de Daenerys dans la série Game of Thrones. Elle arrive, débordante d'énergie, dans son sarouel rouge, pétillante comme une coupe de champagne. Entre deux gorgées de jus de betterave bio, les élèves s'exécutent. Bras en l'air, jambes tendues, pieds flex. Après un échauffement rapide, Aria lance l'une de ses chansons et c'est parti. Aria les pousse jusqu'au bout, leur crie de se surpasser, comme un chef militaire qui motive ses soldats. C'est ça le warrior yoga. Ils tiendront ce rythme effréné pendant plus d'une heure. Puis, petit à petit, le tempo ralentit et arrive seulement la phase de relaxation. Alors que leur cœur bat encore très vite, les élèves d'Aria, épuisés, joignent les mains devant la poitrine et ferment les yeux. C'est la fin du cours. Mais avant de quitter ses élèves, elle leur réserve une petite surprise. Elle attrape son ukulélé et leur chante l'un des mantras de l'album. Après une séance de cardio intensive, Aria finit toujours en chanson. Un moment propice, selon elle, pour recevoir les vibrations de la musique et le sens profond du mantra. Celui qu'elle a choisi ce jour-là, c'est Shiva Shambho, une phrase qui invite à franchir les obstacles de la vie et à ne jamais reculer.
Alors, Aria, dites-nous-en un petit peu plus sur ce warrior yoga. C'est quand même très guerrier comme terme. Ça sonne pas très zen, quand même, warrior yoga.
C'est une méthode de yoga que j'ai inventée après. Donc, j'ai commencé le yoga en 2000. Donc, vous voyez, ça fait presque 20 ans que je pratique et que j'enseigne le yoga. Donc, j'ai fait plusieurs styles, hein. Le yoga, c'est comme la danse. Vous avez du hip-hop, du classique, du contemporain. C'est pareil. En yoga, vous avez de l'ashtanga, du yengar, du hatha yoga, du bikram. Et donc, warrior yoga, c'est un yoga que j'ai inventé et que j'ai déposé il y a 3 ans. Et en fait, c'est un yoga où je me suis inspirée de tous les styles de yoga qui existent et j'ai créé le meilleur yoga c'est quoi le but du yoga? C'est de rester dans le moment présent. Donc en fait, le problème avec les yogas qui sont très très lents, c'est que vous avez le temps de penser entre les mouvements. Vous êtes là, oui, alors qu'est-ce que je vais faire après? J'ai ça à payer comme facture. Enfin, on a toujours du stress. C'est ça qui cause le stress, c'est le fait de pas être vraiment dans le moment présent. Donc en fait, ce yoga, il ne vous laisse pas le temps de penser. C'est très enchaîné, un peu comme des chorés de danse. Donc on enchaîne des postures. C'est en mode un peu guerrière au départ, c'est dépasser ses limites, sortir de sa zone de confort, oublier ses peurs. Donc en fait, vous serez surpris, à la fin du cours, tout le monde se met sur la tête, sur les avant-bras, sur les bras, et ils sont là, mais comment tu nous as fait faire ça? Parce qu'en fait, les peurs viennent du fait qu'on se pose et qu'on réfléchit et qu'on voit les autres et qu'on se dit, ah non, mais ça, je vais pas pouvoir le faire. Alors que si on enchaîne et que du coup, je les force en fait, entre guillemets, à pas penser, du coup, en fait, ils arrivent à faire des choses incroyables, et à la fin, ils sont là, mais je te remercie, comment je savais même pas que j'étais capable de faire des choses comme ça. Donc en fait, ça prouve bien qu'on s'arrête avec le mental à faire des choses dans la vie de tous les jours aussi, hein, pas que dans le yoga.
Et ça, c'est important pour les artistes avec lesquels vous avez travaillé, que ce soit en France ou à Hollywood. On évoquait Ashton Kutcher, Jared Leto, Chaim, Matt Pokora, Sonia Roland et bien d'autres. C'est utile le yoga quand on mène une carrière artistique?
Bien sûr, hein, surtout pour les artistes, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est très difficile le milieu artistique. Un jour on vous adore, vous êtes partout, le lendemain vous n'avez plus d'amis. Donc en fait, c'est important d'avoir un fil conducteur et quelque chose qui vous garde la tête sur les épaules, les pieds sur le sol et que vous fait pas perdre la tête. Et aussi, ça vous donne cette volonté de je n'abandonne pas, si j'ai un projet, j'ai envie de le faire, c'est ma passion, c'est ce que j'ai envie de partager avec le monde, j'ai envie de changer le monde. Et vous savez, souvent, les gens qui croient pouvoir changer le monde, c'est ceux qui arrivent en fait.
Alors, quelques questions pour terminer que beaucoup de gens qui nous écoutent se posent. Est-ce que le yoga, c'est dangereux musculairement parlant, parce que moi j'ai jamais fait de sport depuis des années, admettons, et ben est-ce que je peux commencer le yoga la semaine prochaine?
Bien sûr, vous pouvez commencer. Alors
pas d'élongation, pas de claquage.
Non,
même le warrior yoga.
Bah justement, le warrior yoga, c'est le meilleur yoga que vous allez pouvoir commencer avec, parce que on corrige énormément les postures. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un qui a le dos bossu, qui est mal placé, hop, je cours et je le remets en place. Donc en fait, c'est important de faire un cours de yoga avec quelqu'un qui vous replace tout le temps. Si vous faites un cours de yoga avec une prof qui n'a rien à faire ou qui a trop d'élèves ou qui vraiment elle fait pas attention à vous, oui, vous risquez de vous faire mal. Donc c'est très important d'être guidé par, comme ils disent en Inde, un gourou qui est un professeur, donc un bon gourou qui vous replace le corps en permanence. Si la personne si vous prenez un cours et qu'elle vous replace pas, elle vous remet pas en place, ça veut dire que vous ne retournez plus, hein.
Est-ce que le yoga c'est bon pour le cœur, Aria?
Ah, c'est bon pour le cœur, pour le mental, pour le corps, pour tout. Bien sûr, c'est bon pour le cœur. Quand vous êtes pas bien, vous savez ce qui, vous faites une séance de yoga et ça vous reset, ça vous remet à zéro vos énergies. Donc en fait, vous réalignez vos chakras, peu importe les problèmes qu'il y a dans votre vie, vous oubliez tout et vous recommencez à zéro avec des nouvelles énergies, de la nouvelle force et vous pouvez aller pour votre journée.
Ça fait maigrir le yoga?
Ça fait maigrir aussi, surtout le warrior, hein, pas les autres.
Ah, moi, je parle de mon style. Le vôtre est vraiment complètement à part. Hein,
attention, ouais. Bien sûr qu'elle est complètement voilà. Parce que je vous ai dit, j'ai pris les meilleures parties de tout. En fait, ça fait maigrir quand c'est cardio, donc il faut faire monter le rythme cardiaque. Si vous faites pas, s'il y a des styles de yoga où vous restez 10 minutes dans une posture, vous n'allez pas transpirer. Hein. Mais si vous transpirez à fond là pendant une heure, c'est comme si vous avez pris 3 douches d'un coup. Donc vous sortez, vous êtes en nage. Bien sûr, vous allez perdre du poids.
Alors, faut peut-être l'accompagner aussi d'un régime alimentaire en même temps, non?
Bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on mange. Parce que même, franchement, le plus, moi, avant même, je faisais un peu de course à pied. Pendant 2 heures, je courais. Donc, c'est énormément d'efforts physiques. Et j'ai pris des kilos parce que je mangeais plus, parce que j'avais plus faim. Donc, bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on mange. Ce qu'on met à l'intérieur de son corps, c'est le plus important. Le yoga, ça va vous muscler surtout. Ça va vous tonifier le corps. Mais c'est le plus important, c'est ce que vous mettez à l'intérieur, c'est sûr.
De Gayatri, Aria en duo avec Natacha Saint-Pierre. Merci beaucoup, Aria,
merci
d'être
beaucoup
passée nous voir.
Merci beaucoup.
L'album Love is the Answer, disponible chez Bendo Music.
Main d'œuvre. Margot BD. Aujourd'hui, je suis...
le pied du spectacle. Alors on se trouve ici dans l'atelier de fabrication de la maison Clairvoy. C'est ici que sont réalisées toutes les chaussures à la main et sur mesure. Le client principal, c'est le Moulin Rouge. Et du coup, on réalise toutes les chaussures de la revue qui sont au nombre de à peu près 1000 paires sur la création du spectacle. Donc je suis Nicolas Mestriot, je suis bottier de profession et je dirige la maison Clairvoy depuis 12 ans pour le Moulin Rouge. Donc là, on est en train en fait de réaliser la forme qui correspond au pied de Olga, l'artiste pour qui on va réaliser une paire de bottines cancan, qui est la soliste cancaneuse du moulin. C'est elle qui fait le plus d'acrobatie. Alors là, voilà, on est sur le pied d'Olga en bois. Je prends son pied. Alors là, j'utilise une râpe à bois qui me permet en fait d'usiner le bois de la forme pour représenter vraiment son pied sur la forme. Je prends mon mètre ruban pour mesurer un peu où j'en suis sur la préparation de la forme. Et en fait, je m'aperçois qu'il va me manquer 3 mm au niveau de la largeur du pied au doigt, là où en fait le pied est le plus fort. Donc je vais rajouter un morceau de lèche. Alors là, en fait, je suis en train de réaliser donc le patronage du modèle. Et je me sers de la forme qu'on a réalisée au départ pour construire en fait tout le modèle de bottine cancan d'Olga, quoi. Je plaque la feuille craft sur la forme qui vont me permettre en fait de retrouver toute l'allure de la forme que j'ai construite au préalable. Et une fois que j'ai fait ce relevé de forme, en fait, je vais dessiner chaque pièce de la chaussure pour pouvoir obtenir le relevé de forme. Et comme ça, du coup, ça me fera les gabarits pour couper dans la peau. Alors la peau, c'est une peau de veau en fait, avec un tonnage très particulier pour le cancan, qui est quand même quelque chose d'assez fort. Et l'outil qu'on a en main, c'est ce qu'on appelle un chasse-peau. C'est une lame en acier en fait affûtée qui nous permet de couper la peau avec une bonne dextérité. Ça ressemble beaucoup à un scalpel. Là, j'utilise des petits clous qu'on appelle des semences, qui sont en fait des petits clous qui vont se rifter à l'intérieur de la chaussure. Donc se rifter, c'est se replier à l'intérieur, ce qu'ils vont faire office de couture. C'est ces clous qui agissent comme des agrafes, qui nous permettent de retourner au cœur de la chaussure au moment de l'entretien si nécessaire. Donc là, on est en fait sur l'assemblage du dessus et du dessous de la chaussure. C'est le montage et la finition du modèle avant la livraison que le gars viendra chercher dans quelques jours.
Salut.
Bonjour,
Olga. Ça va?
Ça va bien, et toi?
Ça va très bien.
Donc tes bottines de cancan sont prêtes.
Oui, elles sont jolies en tout cas.
Est-ce que tu veux que je te passe des bas? Ou est-ce que tu les essayes comme ça?
Non, ça va.
Tu
les essayes sur le chaussette, ouais. Il n'y a pas de souci. Sans confort, le talon sent bien.
Ouais.
Comme je fais l'acrobatie, il faut que ce soit les chaussures de confiance. À chaque fois, oui, c'est quelque chose de... Je pense à Nicolas beaucoup.
Tout à l'heure, le gars vous disait, bah oui, à chaque fois je pense à Nicolas quand je vais réaliser le cancan. Alors c'est peut-être pas vrai à chaque fois non plus. Néanmoins, quand même, forcément, ça l'est un petit peu. Et nous, en fait, de savoir que l'artiste va vivre les choses de cette manière-là, c'est ce qui rend les choses magiques pour nous et ce qui fait que, du coup, la performance de fabrication à chaque fois est différente et particulière.
Aujourd'hui, j'étais...
Le pied du spectacle.
Sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Fanny Beffner, Hortense Vol, Elisabeth Le Quéré et Alain Pilot. Bonjour tout le monde.
Bonjour Jean-François.
La 36e édition du festival Banlieue Bleue démarre ce week-end en région parisienne. Hortense, vous avez rencontré les artisans de l'une des créations qui sera présentée au public, Rachida With Love.
Un concert unique qui se jouera demain à l'Embarcadère d'Aubervilliers. Un concert hommage à un punk sans frontières, le musicien et chanteur Rachida, qui nous a quittés il y a 6 mois.
Vous, Alain, vous allez nous présenter un jeune musicien trentenaire et qui a de qui tenir.
Oui, même s'il n'a pas eu besoin de ça pour avoir du talent, Thomas Enko n'est autre que le fils de la soprano Caroline Casazzu, le petit-fils du chef d'orchestre Jean-Claude Casazzu, l'arrière-petit-fils de la sociétaire de la comédie française Gisèle Casazzu, et le beau-fils de Didier Lockwood. Son album est baptisé, en rapport avec son âge, 30.
Voilà, bon sang ne saurait mentir, comme on dit. Quant à vous, Fanny, vous nous parlerez d'une femme kleptomane et d'objets qui prennent vie.
Oui, c'est la thématique au cœur de Bells and Spells, au théâtre de l'Atelier à Paris. Une rêverie fantaisiste, en musique et sans paroles. Une pièce assez magique, vous verrez.
Mais on va commencer avec du cinéma et une figure mythique, l'incarnation même du séducteur, mise en scène par Benoît Jacquot dans Dernier Amour. Le cinéaste français Elisabeth met en scène le séducteur mythique Casanova sous les traits de Vincent Lindon.
Oui, Casanova, figure emblématique du XVIIIe siècle. Alors séducteur, bien sûr, mais pas seulement. Aventurier, magicien, violoniste, écrivain, escroc aussi, beaucoup.
Ah oui.
Le film commence en 1756. Casanova s'évade de la prison des plombs, la terrible prison des plombs à Venise, où il est incarcéré pour libertinage, bien sûr, et athéisme. Et il atterrit à Londres.
C'est votre premier séjour à Londres,
monsieur Casanova.
Premier séjour.
On m'avait dit que tu étais à Paris.
À Genève, à Vienne.
Les femmes.
Les femmes, oui. J'ai toujours été l'ami de toutes. Sauf une.
Une avant-annonce de Dernier Amour, un portrait de Casanova signé Benoît Jacquot.
Oui, alors Benoît Jacquot, c'est son 25e film. Ici, c'est Vincent Lindon qui joue Casanova, hein, après d'illustres acteurs, Marcello Mastroianni, et puis surtout Donald Sutherland.
Ah, j'adore.
Chez Fellini, voilà. Alors, Fellini détestait Casanova. Hein, donc, si vous vous souvenez bien du film, Sutherland, c'était une espèce de mécanique complètement déraillée. Alors, Fellini détestait Casanova. Mais clairement, ce n'est pas le cas de Benoît Jacquot.
Quand on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle encore aujourd'hui un Casanova, on parle d'un cœur d'artichaut, oui, pour ne même pas aller plus loin. Mais d'après moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est neuf. Chaque occasion, chaque rencontre, chaque moment de son existence est un autre moment. Moi, ce qui me frappe en lisant Casanova et donc en ayant par lui-même un aperçu de lui-même, c'est sa franchise absolue. Voilà, il est d'une complète franchise.
On m'avait dit que tu étais à Paris.
À Paris, à Genève, à Vienne. Je te raconterai.
Les femmes.
Les femmes. Et le gain aussi.
Ah oui. Sempre lo stesso, hein. Quand même, tu aurais pu venir me voir.
Et dans cet extrait de Dernier Amour, on est à Londres, Elisabeth, où Casanova rencontre une ancienne maîtresse.
Oui, c'est une cantatrice affriolante, hein, jouée par Valeria Golino. Mais c'est à une autre femme qu'il va bientôt se heurter, Marianne de Charpillon. C'est une courtisane anglaise de 17 ans. Elle lui résiste, il devient fou. Et donc j'ai demandé à Benoît Jacquot pourquoi il a choisi en fait cet épisode spécifique, hein, des mémoires de Casanova, puisque c'est l'homme qui séduit toutes les femmes. Et là, effectivement, il est mis en échec.
Ça me permet, disons que ça me permet d'inverser, de retourner le gant, c'est-à-dire d'inverser l'image convenue du Casanova.
Du séducteur,
voilà, d'une espèce de collectionneur de femmes, de chasseur de têtes féminines, qui, alors là, pour le coup, m'intéresse pas du tout, je m'en fous complètement.
Mais,
bon, totalement, que ça peut me foutre, moi, un collectionneur de femmes, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est un crétin, par définition. Don Juan, pour moi, est, pour une grande part, un crétin, un malheureux. Voilà. Non, ça m'intéresse pas du tout, et de toute façon, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a, pour l'humanité féminine, une amitié, une affection, une complicité même, très très rare. Et du coup, quand il se trouve affronté à ce qu'on appelle jusqu'à maintenant la guerre des sexes, donc il tombe sur un os, voilà, c'est un bon râteau sévère.
S'attacher à une seule, c'est la pire des choses.
Elle vous retire le goût des autres.
Dans une semaine, vous l'aurez oublié.
Ne venez pas.
Vous m'avez dit que c'était urgent.
Je vous ai menti.
Et face à Vincent Lindon en Casanova, Elisabeth, une jeune actrice franco-anglaise, Stacy Martin.
Oui, alors Lindon, il est parfait. Il lui manque sans doute juste un petit peu de légèreté, hein, pour être totalement Casanova. Puis Casanova, en fait, on a beau dire, hein, que c'est la fin de sa vie, cet épisode, mais en fait, il a 38 ans.
Oui,
donc il y a un
d'accord.
léger décalage temporel assez difficile à endosser pour Vincent Lindon. Et puis en face, voilà, Stacy Martin, c'est cette jeune actrice, hein, géniale. On l'a découverte dans Taj Mahal de Nicolas Sada. Et puis dans Le Redoutable, hein, où elle jouait Anne Wiazemski, la femme de Jean-Luc Godard. Voilà, ici, elle est absolument parfaite. C'est un petit lutin, c'est une courtisane, c'est une geisha, c'est une égérie, c'est une vierge effarouchée. Enfin, elle fait miroiter tous les feux de la séduction et du mensonge, hein, bien sûr, devant ce pauvre Casanova qui n'en peut mais.
Je ne vous verrai plus.
Non. À moins qu'une occasion semblable se présente à nouveau. Mais c'est impossible. Vous le savez, à moi, on ne fait pas la cour.
M'autoriseriez-vous à vous faire la cour?
Vous seriez capable de vous comporter en fiancé?
Vous ne me croyez pas capable.
Il faudrait venir à la maison tous les jours.
Je viendrai tous les jours. Et nos fiançailles dureraient combien de temps?
15 jours, si vous êtes sage.
Face à face entre la courtisane Stacy Martin et Vincent Lindon dans Dernier Amour de Benoît Jacquot. Alors Elisabeth, quand on parle film en costume, la crainte qui vient tout de suite à l'esprit, c'est sans doute quelque chose d'un peu empesé. Est-ce que c'est le cas ?
Non, et en partie, en grande partie, grâce aux acteurs. Hein, cet homme, ce vieil homme qui s'éteint face à une jeune femme flamboyante qui mène le jeu. Alors bon, c'est un peu la marque de fabrique hein, de Benoît Jacquot, puisqu'on lui doit d'avoir mis en lumière beaucoup de jeunes actrices. On va pas toutes les citer, mais Judith Godrèche, Virginie Ledoyen, Isilde Lebesco. Alors on dit souvent c'est le cinéaste des femmes. Oui. En fait, il faudrait être un petit peu plus spécifique. Hein. Ce qu'il filme surtout, Benoît Jacquot, c'est le point de mystère. Des femmes, c'est-à-dire leur point, ce qui résiste, effectivement, leur point le plus séducteur. Donc, de ce point de vue-là, ce film, hein, qui s'appelle Dernier amour, mais qu'on pourrait aussi appeler Premier amour, le premier amour de Casanova, c'est une totale réussite.
Voilà, il est en salle depuis mercredi en France. Merci, Elisabeth. Mick Jones des Clash, dont il avait repris Rock de Casbah, ou encore Brian Eno que l'on entendait à l'instant sur Voilà Voilà, furent ses premiers fans. Le 12 septembre dernier, le rocker, citoyen et militant Rachita, né en Algérie près d'Oran et fondateur en France à la fin des années 80 du groupe Carte de Séjour, s'en est allé, Hortense, à une semaine de ses 60 ans.
Demain, l'invitation du festival Banlieue Bleue, des musiciens de sa famille, c'est-à-dire de tous les horizons, vont rendre hommage à celui qui a su faire rimer rock et rail, mais fut aussi le pionnier de bien d'autres mélanges inédits. Et sur la scène de l'Embarcadère, à Aubervilliers, ce n'est pas un, mais deux orchestres qui vont revisiter ces titres emblématiques. Le Couscous Clan, fondé en 2017 avec le guitariste Rodolphe Berger, et le Kebab Aloula, monté pour la tournée de l'album Zoom, sorti en 2013. Aux manettes du Kebab, le guitariste Maxime Delpierre. Il nous explique comment le répertoire de la soirée a été façonné.
En ce qui me concerne, c'était assez simple, c'est-à-dire que moi, c'était l'occasion de retrouver le groupe de la tournée de Zoom, qui n'était plus le groupe par la suite de Rachid. On a quand même tourné 3 ans ensemble, donc il y avait un vrai propos déjà autour de certains morceaux, on va dire, importants de l'album Zoom. Et il y a eu aussi une certaine plongée au moment où j'ai appris son décès. Comme je pense beaucoup de ses proches, j'ai passé plusieurs jours à écouter que lui, à naviguer sur YouTube et me retrouver dans une espèce d'univers à la forêt rachidienne, c'est-à-dire énormément d'albums, énormément de super musique, beaucoup de morceaux à découvrir. Et donc du coup, j'en suis très très loin. Je veux dire, je connais vraiment pas tout de Rachid. Je suis pas du tout un spécialiste, mais j'ai quand même pu bien écouter D12 et Made in Medina, qui sont pour moi, avec Zoom, les 3 albums de référence sur cet hommage.
Sur l'album Zoom figurent les titres Now or Never en duo avec Jana Dead, qui sera là demain pour l'interpréter, mais aussi Galbi, Mon cœur en arabe. Et cette chanson, c'est le nouvel héros du rail, Sofiane Saïdi, qui lui donnera vie.
دايما يدافعني بيه لي نعبر شعوري وحبي.
Il parle de son cœur, qui il est toujours avec lui, c'est lui qui le rassure, c'est lui qui le met à l'aise. En fait, c'est quelqu'un qui communique énormément avec son cœur, quoi. Et du coup, je trouve que ça lui ressemble, ce morceau-là, quoi. C'est vraiment lui, quoi.
Les propos de Sofiane Saïdi viennent corroborer ceux du joueur de mandol Hakim Amadouche, qui dès 1992 fut de tous les albums et de toutes les tournées de Rachita.
Il disait « je suis un joyeux pessimiste ». C'était quelqu'un qui n'était pas vraiment mélancolique, il était plutôt en colère. Tu sens cette colère derrière qui est là tout le temps, quoi. Mais en même temps, une joie de vivre, de communiquer, l'amour. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup les gens, vraiment. C'était sincère, c'était sans filet, quoi. C'est vraiment une tendresse, une force de l'amour incroyable, ce mec, qu'il partageait, quoi. Et ça, c'est immense.
Oh, Sofiane Saïdi, qu'on vient d'entendre, Hortense avec Saïda, un hommage à feu Chéra Remiti, la reine du rail, dont Rachida était d'ailleurs lui aussi un très grand fan.
Oui, et selon Hakim Amadouche, fidèle d'entre les fidèles, ce n'est pas leur seul point commun.
Il a l'esprit de Rachid. Et cet esprit, c'est un esprit rebelle, une intelligence. En bonus, on a quelqu'un, il a une voix fantastique. Quoi. C'est une voix de rail, une super voix. Mais il a hérité quand même, c'est vrai, un peu de cette fougue qu'avait cette flamme. Il a une petite flamme comme ça de Rachid qui m'a séduit. Voilà, c'est un chic type, quoi.
Ce chic type, Sofiane Saïdi, s'est effectivement toujours reconnu dans la colère de son aîné.
En fait, moi, quand je l'entendais et tout, j'avais l'impression d'être compris, quoi. Et jusqu'à maintenant, en fait, quand on écoute ses textes et on voit ce qui se passe en Algérie, je pense qu'il aurait rêvé voir ça, ce printemps qui est en train de fleurir, quoi.
Qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait chanté, justement, aux côtés des Algériens dans les rues?
Ah, il aurait chanté « Barra Barra, Barra Barra, d'or ».
Titre sorti il y a 8 ans sur l'album Made in Medina et qui sera donc interprété demain soir à Aubervilliers par Sofiane Saïdi pour rendre hommage à celui qui se disait algérien pour toujours et français tous les jours.
Son complice Hakim Amadouche nous explique pourquoi ce titre résonne aujourd'hui de manière si particulière.
C'est tout simplement ce qui se passe depuis longtemps. Quoi. C'est cette oppression, cette injustice, comme on appelle chez nous Al-Hogara, ça veut dire la pression qu'on met sur les gens, l'étau, c'est Hogra. C'est un peu quelqu'un qui est faible et qu'on tape dessus, quoi. Voilà. Et ça dit aussi des très belles phrases, des barra barra, dehors, dehors, les oiseaux se sont tus. Dehors, dehors, il n'y a plus de fleurs. Dehors, dehors, les murs sont tombés. Dehors, dehors, le ciel est noir, on ne peut plus respirer. Etc, etc. Je suis sûr qu'il est fier de là où il est parce qu'il n'a jamais douté de ce peuple, bien qu'il était tout le temps râlé contre l'Algérie, il ne s'arrêtait pas une minute. Les gens croient qu'il tapait que sur les Français, mais sur l'Algérie, c'est pire encore. Il était tout le temps en pétard contre ce pays. Donc, il en serait très, très fier de ce qui se passe maintenant. Et en même temps, un peu angoissé parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer.
Et c'est vrai que l'avenir est effectivement incertain. D'ailleurs, au moment où on se parle, Hortense, après un mois de contestation, les Algériens manifestent pour un cinquième vendredi consécutif.
Avec un seul mot d'ordre, rock El Kasbah, la transe de demain, elle risque bien de résonner jusque de l'autre côté de la Méditerranée. Ce que l'ami, le frère Hakim Amadouche, résume en ces termes.
Moi, je pense que cette soirée va être ça, l'amour de l'autre et le cri contre l'injustice.
Rachida With Love, c'est donc demain à l'Embarcadère d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, région parisienne, dans le cadre du festival Banlieue Bleue, un festival qui, d'ici le 19 avril, accueillera également Sean Couty, Oumou Sangaré, Bonga ou encore Salif Keïta. Merci beaucoup, Hortense. Alors avec vous Fanny, vous nous proposez la pause onirique de cet après-midi.
Avec Bells and Spells, que je suis allée voir au théâtre de l'Atelier à Paris, le spectacle s'ouvre sur la scène suivante. Des personnes alignées sur des chaises battantes dans ce qui ressemble à une salle d'attente. Régulièrement une sonnerie, une personne qui sort, les autres qui se décalent, jusqu'à ce qu'une femme se retrouve seule dans cet intérieur et après quelques coups d'œil, dérobe un tableau et là, le portrait prend vie, il se détache du mur, devient un homme et on suit les aventures de cette femme kleptomane interprétée par Aurélia Thierry, qui explique qu'il n'y a pas vraiment de narration continue.
Moi, je pourrais vous dire une histoire un soir ou une espèce de squelette d'histoire, mais en fait, j'aime quand les gens projettent une histoire. C'est une succession de tableaux, il y a une logique, il y a des objets qui se retrouvent d'un tableau à l'autre, et il y a une espèce de logique folle, comme on peut en avoir dans les rêves, ou quand on rêve une chose complètement absurde sur le moment où on s'adapte, et c'est seulement le matin où on se dit « mais c'était complètement fou ». C'est une logique auquel on s'adapte comme si c'était une réalité un peu...
Alors Aurélia Théré parle d'objets, on les remarque vraiment en tant que spectateur, Fanny ?
Oui, ils se transforment, disparaissent, virevoltent et occupent finalement une place aussi importante que les deux personnages sur scène. Cette femme donc et l'homme sorti du tableau et interprété par Aimé Martinez.
En tout cas, ils ont une influence et ils deviennent de plus en plus omniprésents et ils contrôlent de plus en plus cette personne qui les vole.
Chaque objet est vivant. C'est comme dans un rêve où quelque chose qui semble tout à fait ordinaire peut soudainement devenir extraordinaire. Comme une montre à qui des jambes auraient poussé et qui traverserait la table. Ce genre de choses très très inattendues peut arriver. Ça arrive dans les rêves.
Bon, des objets qui s'animent, une histoire comme un rêve, ils seraient pas un petit peu magiciens quand même ces acteurs ?
J'ai vraiment écarquillé les yeux à plusieurs reprises en me demandant comment l'actrice avait changé de tenue en quelques instants, juste le temps de faire un tour dans un portique vitré. Il y a notamment une scène très drôle dans un magasin de vêtements où par un étrange tour de passe-passe, la kleptomane dérobe une tenue. Le tout sans parole ou presque, à peine quelques mots échangés, soufflés presque. Une démarche qui n'est pas anodine pour la petite fille de Charlie Chaplin.
Il y a une inspiration, ça c'est sûr, comme les livres qu'on a aimés, comme les œuvres qu'on voit qui nous touche, on est inspiré. Après, si, ça influence, mais il vaut mieux pas non plus trop essayer d'analyser comment, pourquoi. C'est juste la façon dont, qu'on a de le réinterpréter.
Et ce qui est important aussi de souligner, Fanny, c'est que le spectacle, la scénographie sont signés de la mère d'Aurélia, Victoria Thierry Chaplin.
Un véritable travail d'équipe qui semble assez naturel.
Elle imagine des scènes et ensuite elle les met ensemble, ensuite elle nous jette dedans. Et à la toute fin, on se rend compte qu'il y a un spectacle. Mais ça, c'est un procédé qui commence par la fin presque. C'est compliqué comment on travaille ensemble et on n'aime pas trop essayer de définir parce que c'est un petit miracle et on se dit si on commence à le définir d'abord peut-être on va s'engueuler, ensuite peut-être ça ne marchera plus. Je suis au tout début quand elle commence à avoir les idées et tout au long et pourtant il y a quelque chose qui m'échappe même jusqu'au dernier spectacle quand on commence à en créer un nouveau. On se dit souvent que c'est la minute où on commence à comprendre comment fonctionne le spectacle, il faut qu'on passe au suivant.
Et sur scène donc pendant un peu plus d'une heure, principalement deux personnages, une sorte de couple qui semble traverser les époques.
Les états d'esprit peuvent largement changer d'un extrême à l'autre assez rapidement. Et en ce qui concerne nos personnages, on doit parfois sauter de l'un à l'autre, mais je crois que c'est un peu comme dans la vraie vie. Parfois vous êtes heureux et l'instant d'après, enragé.
Mais en réalité, Fanny, il y a plus que deux personnes sur ce spectacle.
On les voit parfois faire une apparition, mais ils sont surtout dans l'ombre, être des petites mains qui tirent littéralement des ficelles, permettent à une tête de s'envoler d'un corps ou encore à des tableaux de s'animer.
Une chose que je trouve très intéressante avec ce spectacle, c'est que quand on n'est pas sur une scène, on est occupé en coulisses. Donc même si vous pensez que vous voyez mon visage, on est aussi responsable d'activer une autre chose qui va entraîner une autre chose. Donc c'est toute une chorégraphie qui se déroule en dehors de la scène et derrière les éléments de décor.
Une chorégraphie millimétrée qui forcément peut donner lieu à quelques ratés avec lesquels les artistes composent.
Probablement que chaque soir il va y avoir une chose qui ne va pas fonctionner, on ne sait jamais laquelle. Dans un sens, il ne faut pas en avoir peur, quoi. Et c'est peut-être ça le plus dur, c'est qu'il y a tellement de choses qui peuvent ne pas fonctionner. Mais c'est beau parce qu'on y va un peu en folie comme ça.
Et pourtant, ce n'est pas ce qui a posé le plus de problèmes à Jaime Martinez.
The most difficult thing for me is probably learning how to stand.
Le plus difficile pour moi, ça a été d'apprendre à me tenir comme quelqu'un de normal sur scène, parce que j'ai un parcours de danseur. Vicky travaille là-dessus depuis des années avec moi. Comment se tenir simplement comme quelqu'un de normal. J'essaye et elle me dit « Non, tu te tiens comme un danseur. » C'est l'un de mes plus grands défis depuis que je travaille avec cette compagnie. Mais quand il y a une chorégraphie, je suis votre homme, parce que c'est ce dont j'ai l'habitude.
Et il prend ainsi un plaisir tout particulier dans l'une des scènes finales, au milieu d'une forêt de porte-manteaux.
J'aime particulièrement cette scène à la fin, quand je crée cette bête que personne n'avait imaginée avec ses porte-manteaux. Ça devient un conte féerique où Aurélia manipule ce dragon ou cette créature, peu importe ce que c'est. Les choses se transforment en d'autres, complètement inattendues. C'est mon moment préféré.
Things turn into other things that are very unexpected. That's my favorite. Bells and Spells à découvrir au Théâtre de l'Atelier à Paris jusqu'au 12 mai et ça donne envie. Merci Fanny. Allegro, c'est le titre, et vous le disiez en préambule, Alain, le nouvel album de Thomas & Co. est intitulé 30, clin d'œil au fait que l'artiste vient de passer tout juste la trentaine, et objet également d'une composition.
Ou des ghost notes, des notes fantômes, planent au-dessus, décryptage d'une ghost note par Thomas & Co.
C'est une note qui est presque pas jouée. C'est-à-dire, elle est jouée tellement faiblement qu'on a l'impression qu'on l'entend pas, mais elle est là quand même, et donc elle donne du rythme, en fait. Elle donne du relief, de la profondeur. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le jazz, et puis sinon, dans le classique, c'est quelque chose qui appartient beaucoup au domaine des percussions. Souvent, on les note avec des parenthèses autour. C'est-à-dire qu'elle est là, mais on l'effleure seulement. Ça veut dire que le silence n'est pas vide, en fait. Le silence est plein, il est plein, soit parce que la note est quand même jouée, soit parce qu'elle n'est pas jouée, mais elle est tellement pensée que c'est comme si elle était jouée, en termes de temps. Et ce morceau-là en particulier, Turning 30, je viens d'avoir 30 ans, je les ai eu juste après avoir enregistré cet album. Et c'est un morceau qui est plein d'optimisme, avec une petite pointe de nostalgie dedans. C'est exactement comme je me sens aujourd'hui, en fait. Je me sens mieux et plus bienveillant avec moi et avec le monde qu'il y a 5 ou 6 ans, ou même qu'il y a 10 ans. Et pour moi, avoir 30 ans aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment une très, très bonne expérience. Et ce morceau, tout cet album évoque un peu ça, mais ce morceau en particulier.
Je vais essayer de récupérer l'accent de Jean-François et de Thomas, Turning 30.
Moquez-vous.
Thomas & Co, pas du tout, Thomas & Co qui a 30 ans, et la javanaise, un peu plus de 50.
C'est un morceau magnifique, c'est une de mes chansons françaises préférées. C'est un morceau avec lequel j'ai une histoire assez forte aussi, parce que la première fois que je l'ai joué, c'était quand j'avais 16 ou 17 ans. J'avais été invité par Didier Lockwood à jouer aux Victoires du Jazz, c'était à Deauville en 2005 ou 2006. Ça a été filmé d'ailleurs, je suis retombé sur cette vidéo il n'y a pas longtemps. Avec donc mon trio à l'époque, donc avec deux très jeunes musiciens. Moi j'avais 17 ans, j'étais au piano, et puis on accompagnait Didier Lockwood et Marcel Azola. Accordéon, qui a été aussi une figure que j'ai beaucoup, beaucoup admirée et aimée, qui nous a quittés il y a très très peu de temps. Le mois dernier, et on jouait la javanaise, et il y avait ces deux espèces d'anges, Didier et Marcel, qui jouaient, qui improvisaient ensemble, et puis qui nous laissaient la place à nous aussi d'improviser, jouer avec eux, les accompagner, on se passait la balle, c'était vraiment génial. Puis plus tard, parfois je le rejouais, je le chantais, je le fredonnais, et puis l'année dernière à un concert à l'île de la Réunion, en bis, j'ai commencé à jouer ça, et tout le public s'est mis à chanter avec les paroles. Et c'était un moment vraiment fabuleux, et je me suis rendu compte à quel point c'était une mélodie qui était chère dans le cœur des gens.
Thomas & Co et sa version de la javanaise de Gainsbourg sur ce disque en deux parties, fait comme un concert. Une partie classique à la demande de l'orchestre de Pau Pays Béarn et l'autre jazz.
Le style musical de prédilection de feu Didier Lockwood, le virtuose français du violon, qui a inspiré à Thomas le morceau qui ouvre l'album « Joue pour les anges ».
Didier, c'était mon beau-père depuis que j'avais 4 ans, puis c'était mon mentor aussi, qui m'a initié au jazz et qui m'a encouragé dans cette voie-là. Et « Joue pour les anges », c'était le titre que j'ai donné au morceau, parce que c'est une phrase qui m'a beaucoup répété quand j'étais petit, surtout quand j'étais ado en fait, et que j'étais tellement boulimique de connaissances, d'apprentissage sur la musique. J'apprenais beaucoup, j'étudiais beaucoup, et puis en fait, parfois il me disait « Attention, t'es en train de t'éloigner un petit peu du gamin qui est en toi, et il faut que t'oublies un peu tout ce que t'apprends, que tu laisses faire les choses et que tu connectes avec quelque chose de plus spirituel, de plus haut. » Et il résumait ça en disant « Il faut jouer pour les anges ».
Et Thomas & Co sur l'album 30 joue pour les anges le 17 avril prochain à la Cigale à Paris. Merci beaucoup Alain, merci aussi à Elisabeth Fanny Hortense. On se retrouve lundi avec l'écrivain britannique Edward St-Aubyn pour son nouveau roman Dunbar et ses filles chez Grasset. Et vous m'en direz des nouvelles.